Chers amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute d'un programme de méditation biblique présenté par Jacques Marchal. Très souvent, on méconnaît la notion de liberté lorsqu'on pense que la création de la loi et le fait qu'il faut la respecter est une atteinte à l'indépendance de l'individu. Rien n'est plus faux. En réalité, là où règne la rébellion ouverte contre l'autorité, la loi n'en conserve pas moins sa validité. Lorsque chacun fait ce qu'il pense être bien ou ce qu'il désire, on aboutit au plus abject des esclavages, car chacun finit par devenir esclave de lui-même ainsi que de ses penchants. L'apôtre Pierre décrit très bien le processus que suivent ces gens. Avec des discours enflés de vanité, dit-il, ils amorcent par leur convoitise de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Saviez-vous que la Bible utilise l'expression « loi de la liberté » ? L'épître de Jacques compare à deux reprises la loi de Christ à la loi de la liberté. En Jacques 1, 25, le Saint-Esprit révèle que celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et dans les versets 21 et 22, Jacques continue en disant « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole. » Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. La loi parfaite, la loi de la liberté, n'est autre que la parole du Seigneur Jésus implantée dans notre cœur. Et par conséquent, les mots loi et liberté sont loin d'exprimer des principes, des concepts contradictoires. La véritable liberté est issue de la loi de Christ du Nouveau Testament. L'indépendance totale, c'est-à-dire ne plus vivre sous la terrible férule du péché, ne s'obtient qu'après avoir cru et obéi à la vérité des enseignements du Fils de Dieu, l'Évangile. Ce n'est pas parce que nous ne sommes plus régis par la loi de l'Ancien Testament qu'il faut en conclure que nous sommes dégagés de toute loi, de tout maître dans la conduite de notre existence. L'apôtre Paul déclare, quoi donc ? Pécherions-nous ? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, ou loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes des esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Puis-je me permettre de vous poser une série de questions très indiscrètes. Qui est votre maître? Êtes-vous votre propre esclave? Vous êtes-vous laissé séduire par les appels de votre nature de chair et d'eau jusqu'à devenir serviteur de la corruption? Ou avez-vous plutôt remis inconditionnellement votre cœur et votre vie entre les mains de Jésus, le Sauveur? À un certain moment de sa vie, le pécheur, qui était Paul, a découvert la vraie signification d'une libération de ses fautes pour venir enfin vers l'espérance et donner un but à sa vie. Il nous dit à tous, sur un ton poignant, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Cette indépendance, caractérisée par une joie qui dépasse tout entendement et par une merveilleuse expectative quant au futur, est tout simplement la libération de l'emprise du péché. Il n'existe pas de plus grande liberté que de voir l'iniquité abandonner son pouvoir sur nous, relâcher cette terrible mâchoire, nous quitter à jamais. Cette liberté est à votre portée. Mais le réalisez-vous vraiment? Une partie de la société actuelle estime avoir la latitude de répudier la place que Dieu lui a donnée dans ce monde. Les mouvements de libération féminine comptent en leur sein nombre de dames prétendues enseignements de la Bible sur la soumission de l'homme portent atteinte à leurs divers droits d'autodétermination et de liberté. Ces idées résultent d'une conception contraire dans son essence à la signification que Dieu entend donner au principe de l'obéissance. Celle-ci ne détruit en rien ni la liberté individuelle, s'entend, ni les droits, ni les valeurs intrinsèques de la femme. L'obéissance à laquelle l'homme fut soumis dans le jardin d'Éden ne touchait en aucune manière à son libre arbitre. Dieu donna à Adam l'entière liberté de choisir pour lui-même. Et la Bible nous dit, en Genèse, que l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme avait donc une entière liberté de choix, et nous savons qu'il en fit usage et comment. Sa désobéissance entraîna la peine de mort spirituelle, ainsi que son corollaire, la disparition physique, quand le temps fut venu. Lorsque Satan se mit à tenter Adam et Ève, ils possédaient le don précieux entre tous de pouvoir obéir ou désobéir aux instructions de leur créateur. Vous et moi avons encore de nos jours cette merveilleuse faculté. Comprenons donc que la soumission n'infère aucune infériorité à proprement parler. L'homme a été créé pour être assujetti à Dieu, et malgré cela, il a reçu une domination totale sur la terre. Il sera un jour couronné dans la gloire et l'honneur. Le psalmiste, s'adressant à Dieu, lui dit, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. De même, et bien que la femme soit sujette à l'homme, elle ne perd rien de son honneur, de sa gloire et de sa valeur personnelle. En fait, c'est en apprenant où Dieu désire qu'elle serve dans la vie qu'elle trouve son plein épanouissement. La pleine expression de sa liberté se situe au niveau de son acceptation de la volonté divine. N'oublions pas que la main qui berce l'enfant dans son berceau dirige encore le monde. À côté de chaque grand homme se tient une femme exceptionnelle. Lorsque Dieu décida l'incarnation de son fils, il choisit une femme, la Vierge nommée Marie, pour lui donner naissance. L'apôtre Paul était inspiré par le Saint-Esprit lorsqu'il écrivit à propos de la tenue et de la manière de vivre des femmes. Ayez non cette parure extérieure, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Le foyer, l'Église et même le monde entier se porteraient sensiblement mieux si les hommes et les femmes se souvenaient que la liberté de l'être humain ne l'autorise pas à répudier ce que Dieu lui a donné de plus précieux, une relation étroite avec son Créateur. Si de nos jours, nous faisons le mauvais choix, à l'instar d'Adam et Ève, il est indubitable que nous devons en accepter les conséquences. Et non seulement ces résultantes affecteront notre vie terrestre, mais de plus, les conséquences de nos options sur Terre seront pesées dans l'éternité. Il y a bien des siècles, l'Éternel donna à son peuple le choix entre une bénédiction et une malédiction. Et Moïse rapporte ses paroles. « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux. » Le problème n'a pas varié. Et l'homme du XXe siècle est toujours placé devant les mêmes possibilités. Le chemin large mène à la destruction et l'étroit au salut, à la félicité. Vous avez choisi celui sur lequel vous vous trouvez en cet instant même. Devez-vous modifier votre opinion, votre attitude? Le jour viendra où il sera trop tard pour changer, et je suppose que vous le savez. Jésus en parle lorsqu'il précise, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Au ciel, nous serons encore soumis à Dieu. Mais quelle joie cela sera! Apocalypse chapitre 22 dit bien, « Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. » Et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Comme nous venons de le voir, une option s'impose. Et cela est vrai dans pratiquement tous les domaines. Et pour choisir, me direz-vous, il faut au moins connaître un peu cette volonté de Dieu dont vous parlez tant. Vous avez parfaitement raison, et cela d'autant plus que la Bible elle-même dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Ça revient à dire que la foi ne peut émaner que d'une certaine connaissance de la Bible. Et je sais que, pour quelques-uns d'entre vous, si chers auditeurs, cette idée peut paraître étrange, voire rigoureuse. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, disons-nous. Alors, pourquoi ne vous pencheriez-vous pas à votre tour sur cet ouvrage si merveilleux qu'est la Bible?
Alléluia, 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 alléluia.
Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui vous l'a présenté. Et qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autres noms et ne sont attachés ni à une organisation centrale ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi est surtout et le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité de nous. Parlons de ce que la Bible dit et de notre philosophie à propos de ce qu'elle ne dit pas. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse-Cérès. Je répète, Jacques Marchal,